Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 4, chapitre 6. Première comparution, première parole, conditions de Rome, proposition à rétracter, réponse de Luther, il se retire, impression des deux parts, arrivée de Staupitz. Le jour de la conférence arriva enfin. Le légat, sachant que Luther s'était déclaré prêt à rétracter ce qu'on lui prouverait être contraire à la vérité, était plein d'espérance. Il ne doutait pas qu'il ne fût facile à un homme de son rang et de son savoir de ramener ce moine à l'obéissance envers l'Église. Luther se rendit chez le légat, accompagné du prieur des Carmélites, son hôte et son ami, de deux frères de ce couvent, du docteur Link et d'un Augustin, probablement celui qui était venu de Nuremberg avec lui. À peine était-il entré dans le palais du légat que tous les Italiens qui formaient la suite de ce prince de l'Église accoururent. Chacun voulait voir le fameux docteur et il se pressait tellement autour de lui qu'il avait peine à avancer. Luther trouva le nonce apostolique et s'élonga dans la salle où l'attendait le cardinal. La réception fut froide, mais honnête et conforme à l'étiquette romaine. Luther, suivant l'avis que Serra Longa lui avait donné, se prosterna devant le cardinal. Lorsque celui-ci lui dit de se relever, il se mit à genoux et, sur un nouvel ordre du légat, il se releva entièrement. Plusieurs des Italiens les plus distingués, attachés au légat, pénétrèrent dans la salle pour assister à l'entrevue. Ils désiraient surtout voir le moine germain s'humilier devant le représentant du pape. Le légat garda le silence. Il haïssait Luther comme adversaire de la suprématie théologique de saint Thomas et chef d'un parti nouveau, actif, contraire, dans une université naissante dont les premiers pas inquiétaient fort les thomistes. Il aimait à le voir humilié devant lui et pensait que Luther allait chanter la palinodie, dit un contemporain. Luther, de son côté, attendait humblement que le prince lui adressât la parole. Mais voyant qu'il n'en faisait rien, il prit son silence pour une invitation à parler le premier et il le fit en ces mots. « Très digne père, sur la citation de sa sainteté papale et sur la demande de mon gracieux seigneur, l'électeur de Saxe, je comparais devant vous comme un fils soumis et obéissant de la sainte Église chrétienne, et je reconnais que c'est moi qui ai publié les propositions et les thèses dont il s'agit. Je suis prêt à écouter en toute obéissance ce dont on m'accuse, et si je me suis trompé, à me laisser instruire selon la vérité. » Le cardinal, résolu à se donner les airs d'un père tendre et plein de compassion pour un enfant égaré, dit « Mon cher fils, tu as soulevé toute l'Allemagne par ta dispute sur les indulgences. J'apprends que tu es un docteur très savant dans les Écritures, et que tu as beaucoup de disciples. C'est pourquoi, si tu veux être membre de l'Église et trouver dans le pape un seigneur plein de grâce, écoute-moi. » Après cet exorde, le légat n'hésita pas à lui découvrir d'une seule fois tout ce qu'il attendait de lui, tant sa confiance en sa soumission était grande. « Voici, lui dit-il, trois articles que, d'après l'ordre de notre très saint père, le pape Léon X, je dois te présenter. » Il faut premièrement que tu rentres en toi-même, que tu reconnaisses tes torts et que tu rétractes tes erreurs, tes propositions et tes discours. Secondement, que tu promettes de t'abstenir à l'avenir, de répandre tes opinions. Et troisièmement, que tu t'engages à être plus modéré et à éviter tout ce qui pourrait attrister ou bouleverser l'Église. Luther. Je demande, très digne père, qu'il me soit donné communication du bref du pape, en vertu duquel vous avez reçu plein pouvoir de traiter cette affaire. » Serra Longa et les autres Italiens de la suite du cardinal ouvrirent de grands yeux en entendant une telle demande, et bien que le moine allemand leur eût déjà paru un homme fort étrange, ils ne purent revenir de l'étonnement que leur causa une parole aussi hardie. Les chrétiens, accoutumés aux idées de justice, veulent qu'on procède justement envers les autres et envers eux-mêmes. Mais ceux qui agissent habituellement de façon arbitraire sont tout surpris quand on leur demande de procéder selon les règles, les formes et les lois. De Viau. Cette demande, très cher fils, ne peut être accordée. Tu dois reconnaître tes erreurs, prendre garde à l'avenir à tes paroles et ne pas manger de nouveau ce que tu auras vomi, en sorte que nous puissions dormir sans trouble et sans souci. Alors, d'après l'ordre et l'autorité de notre très saint Père le Pape, j'arrangerai l'affaire. » Luther. « Veuillez donc me faire connaître en quoi je puis avoir erré. » À cette nouvelle demande, les courtisans italiens, qui s'étaient attendus à voir le pauvre Allemand crier grâce à genoux, furent frappés d'une surprise plus grande encore. Aucun d'eux n'eût voulu s'abaisser à répondre à une question si impertinente. Mais De Vio, qui regardait comme un peu généreux d'écraser ce chétif moine du poids de toute son autorité, et qui se confiait d'ailleurs en sa science pour emporter une victoire facile, consentit à dire à Luther ce dont on l'accusait, et même à entrer en discussion avec lui. Il faut rendre justice à ce général des Dominicains. On doit reconnaître en lui plus d'équité, plus de sentiments des convenances et moins de passion qu'on en a montré souvent depuis dans des affaires semblables. Il prit un ton de condescendance et il dit « Très cher fils, voici deux propositions que tu as avancées et que tu dois avant tout rétracter. Premièrement, le trésor des indulgences n'est point composé des mérites et des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, l'homme qui reçoit le Saint-Sacrement doit avoir la foi en la grâce qui lui est offerte. » L'une et l'autre de ces propositions portaient en effet un coup mortel au négoce romain. Si le pape n'avait pas le pouvoir de disposer à son gré des mérites du Sauveur, si en recevant les billets que négociaient les courtiers de l'Église, on ne recevait pas une partie de cette justice infinie, ces papiers perdaient toute leur valeur et on ne devait pas en faire plus de cas que d'un chiffon de papier. Il en était de même pour les sacrements. Les indulgences étaient plus ou moins une branche extraordinaire du commerce de Rome. Les sacrements rentraient dans son commerce habituel. Les revenus qu'ils produisaient n'étaient pas minces. Prétendre que la foi était nécessaire pour qu'ils apportassent à l'âme chrétienne un bienfait véritable, c'était leur ôter tout attrait aux yeux du peuple, car la foi, ce n'est pas le pape qui la donne. Elle est hors de son pouvoir, elle ne procède que de Dieu. La déclarer nécessaire, c'était donc enlever des mains de Rome et la spéculation et ses profits. Luther, en attaquant ces deux doctrines, avait imité Jésus-Christ. Dès le commencement de son ministère, il avait renversé les tables des changeurs et chassé les marchands du temple. « Ne faites pas de la maison de mon père un lieu de marché », avait-il dit. « Je ne veux point, pour combattre ces erreurs, continua Cajetan, invoquer l'autorité de saint Thomas et des autres docteurs scolastiques. Je ne veux que m'appuyer sur la Sainte Écriture et parler avec toi en toute amitié. » Mais à peine De Vio avait-il commencé à développer ses preuves qu'il s'écarta de la règle qu'il avait déclaré vouloir suivre. Il combattit la première proposition de Luther par une extravagante du pape Clément. On nomme ainsi certaines constitutions des papes recueillies et ajoutées au corps du droit canon. Et la seconde par toutes sortes d'opinions des scolastiques. La dispute s'établit d'abord sur cette constitution du pape en faveur des indulgences. Luther, indigné de voir quelle autorité le légat attribuait à un décret de Rome, s'écria « Je ne puis recevoir de telles constitutions comme des preuves suffisantes pour de si grandes choses, car elles tordent de la Sainte Écriture et ne la citent jamais à propos. » De Vio. « Le pape a autorité et pouvoir sur toute chose. » Luther, vivement. « Sauf l'Écriture. » De Vio se moquant. « Sauf l'Écriture. Le pape, ne le sais-tu pas, est au-dessus des conciles. Récemment encore, il a condamné et puni le concile de Bâle. » Luther. « L'Université de Paris en a appelé. » De Vio. « Messieurs de Paris en recevront la peine. » La dispute entre le cardinal et Luther roula ensuite sur le second point, savoir sur la foi que Luther déclarait être nécessaire pour que les sacrements fussent utiles. Luther, suivant son habitude, cita plusieurs passages de l'Écriture en faveur de l'opinion qu'il soutenait. Mais le légat les accueillit par des éclats de rire. « C'est de la foi générale que vous parlez là, » dit-il. « Non, » répondit Luther. L'un des Italiens, maître des cérémonies du légat, impatienté de la résistance de Luther et de ses réponses, brûlait du désir de parler. Il voulait constamment prendre la parole, mais le légat lui imposait silence. À la fin, il dut le réprimander si fort que le maître des cérémonies, tout confus, quitta la chambre. « Quant aux indulgences, » dit Luther au légat, « si l'on peut me montrer que je me trompe, je suis prêt à me laisser instruire. » On peut passer là-dessus sans être pour cela mauvais chrétien, mais quant à l'article de la foi, Si je cédais quelque chose, ce serait renier Jésus-Christ. Je ne puis donc, ni ne veux céder à cet égard, et avec la grâce de Dieu, je ne céderai jamais. » Devio commençant à s'irriter. « Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il faut qu'aujourd'hui même tu rétractes cet article, ou bien pour cet article seul, je vais rejeter et condamner toute ta doctrine. » Luther. « Je n'ai pas d'autre volonté que celle du Seigneur. Il fera de moi ce qu'il voudra. Mais quand j'aurai 400 têtes, j'aimerais mieux les perdre toutes que de rétracter le témoignage que j'ai rendu à la sainte foi des chrétiens. » Devio. Je ne suis point venu ici pour disputer avec toi. Rétracte ou prépare-toi à souffrir les peines que tu as méritées. Luther vit bien qu'il était impossible de terminer la chose dans un entretien. Son adversaire siégeait devant lui comme s'il était le pape lui-même et prétendait qu'il reçut humblement et avec soumission tout ce qu'il disait, tandis qu'il n'accueillait ses réponses, lors même qu'elles étaient fondées sur l'Écriture sainte, qu'en haussant les épaules et en exprimant de toute manière l'ironie et le mépris. Il crut que le parti le plus sage serait de répondre par écrit au cardinal. Ce moyen, pensait-il, laisse au moins aux opprimés une consolation. D'autres pourront juger de l'affaire, et l'adversaire injuste, qui par ses clameurs reste maître du champ de bataille, peut en être effrayé. Luther ayant témoigné l'intention de se retirer, « Veux-tu, lui dit le légat, que je te donne un sauf-conduit pour te rendre à Rome ?» Rien n'eût été plus agréable à Cajetan que l'acceptation de cette offre. Il eût été débarrassé ainsi d'une tâche dont il commençait à comprendre les difficultés, et Luther et son hérésie fussent tombés en des mains qui auraient su y mettre bon ordre. Mais le réformateur, qui voyait tous les dangers dont il était environné, même à Augsbourg, se garda bien d'accepter une proposition qui n'eût abouti qu'à le livrer, pieds et mains liés à la vengeance de ses ennemis. Il la rejeta chaque fois qu'il plut à Devio de la renouveler, ce qui arriva souvent. Le légat dissimula la peine que lui causait le refus de Luther. Il s'enveloppa de sa dignité et congédia le moine avec un sourire de compassion, sous lequel il cherchait à cacher son désappointement et en même temps avec la politesse d'un homme qui espère mieux réussir la prochaine fois. À peine Luther était-il dans la cour du palais que cet Italien babillard, ce maître des cérémonies que les réprimandes de son seigneur avaient obligé de quitter la salle de conférence, joyeux de pouvoir parler, loin du regard de Cajetan et brûlant du désir de confondre par ses raisons lumineuses cette abominable hérétique, courut après lui et commença tout en marchant à lui débiter ses sophismes. Mais Luther, ennuyé de ce sot personnage, lui répondit par une de ces paroles mordantes qu'il avait si fort à commandement, et le pauvre maître des cérémonies, tout confus, lâcha la partie et rentra honteux dans le palais du cardinal. Luther n'en portait pas une très haute idée de son adversaire. Il avait entendu de lui, comme il l'écrivit plus tard à Spalatin, des propositions qui étaient tout à fait contraires à la théologie et qui, dans la bouche d'un autre, auraient été regardées comme archi-hérétiques. Et pourtant, Devio était estimé comme le plus savant des dominicains. Le second après lui était Prierias. « On peut conclure de là, dit Luther, ce que doivent être ceux qui se trouvent au dixième ou au centième rang. » D'un autre côté, la manière noble et décidée du docteur de Wittenberg avait fort surpris le cardinal et ses courtisans. Au lieu d'un pauvre moine réclamant son pardon comme une faveur, ils avaient trouvé un homme libre, un chrétien ferme, un docteur éclairé qui demandait qu'on appuyât des accusations injustes par des preuves et qui défendait victorieusement sa doctrine. Tout le monde se récriait dans le palais de Cajetan sur l'orgueil, l'obstination et l'effronterie de cet hérétique. Luther et Devio avaient mutuellement appris à se connaître et l'un et l'autre se préparaient à leur seconde entrevue. Une surprise bien agréable attendait Luther à son retour dans le couvent des Carmélites. Le vicaire général de l'ordre des Augustins, son ami, son père, Stopitz, était arrivé à Augsbourg. N'ayant pu empêcher Luther de se rendre en cette ville, Stopitz donnait à son ami une nouvelle et touchante preuve de son attachement en s'y rendant lui-même, dans l'espérance de lui être utile. Cet excellent homme prévoyait que la conférence avec le légat aurait les conséquences les plus graves. Ses craintes et l'amitié qu'il avait pour Luther l'agitaient également. Après une séance aussi pénible, ce fut un rafraîchissement pour le docteur que de serrer dans ses bras un ami aussi précieux. Il lui raconta comment il lui avait été impossible d'obtenir une réponse de quelque valeur, comment on s'était contenté d'exiger de lui une rétractation sans avoir essayé de le convaincre. Il faut absolument, dit Stopitz, répondre aux légats par écrit. D'après ce qu'il venait d'apprendre de la première entrevue, Stopitz n'espérait rien des autres. Il se détermina donc à un acte qu'il crut désormais nécessaire. Il résolut de délier Luther de l'obéissance envers son ordre. Stopitz pensait atteindre par là deux buts. Si, comme tout le présageait, Luther succombait dans cette affaire, il empêcherait ainsi que la honte de sa condamnation ne rejaillît sur l'ordre entier. Et si le cardinal lui ordonnait d'obliger Luther au silence ou à une rétractation, il aurait une excuse pour ne pas le faire. La cérémonie s'accomplit selon les formes accoutumées. Luther sentit tout ce qu'il devait désormais attendre. Son âme fut vivement émue en voyant rompre des liens qu'il avait formés dans l'enthousiasme de sa jeunesse. L'ordre qu'il a choisi le rejette. Ses protecteurs naturels s'éloignent. Déjà, il devient étranger à ses frères. Mais quoique son cœur soit saisi de tristesse à cette pensée, il retrouve toute sa joie en portant ses regards sur les promesses de ce Dieu fidèle qui a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Les conseillers de l'empereur ayant fait savoir au légat par l'évêque de Trente que Luther était muni d'un sauf-conduit impérial et lui ont fait dire en même temps de ne rien entreprendre contre le docteur, De Vio s'emporta et répondit brusquement par ces paroles toutes romaines « C'est bien, mais je ferai ce que le pape commande. » Nous savons ce que le pape avait commandé. Livre 4, chapitre 7. Communication au légat. Seconde comparution. Déclaration de Luther. Réponse du légat. Volubilité du légat. Demande de Luther. Le lendemain, on se prépara de part et d'autre à la seconde entrevue qui paraissait devoir être décisive. Les amis de Luther, résolus à l'accompagner chez le légat, se rendirent au couvent des Carmélites. Le doyen de Trente, Pöttinger, l'un et l'autre conseiller de l'empereur, et Stopitz y arrivèrent successivement. Peu après, le docteur eut la joie de voir se joindre à eux le chevalier Philippe de Feilitsch et le docteur Ruel, conseiller de l'électeur, qui avait reçu de leur maître l'ordre d'assister aux conférences et de protéger la liberté de Luther. Ils étaient depuis la veille à Augsbourg. Ils devaient se tenir à ses côtés, dit Mathésius, comme à Constance, le chevalier de Schlum se tint aux côtés de Jean Hus. Le docteur prit de plus un notaire et, accompagné de tous ses amis, il se rendit chez le légat. Dans ce moment, Stopitz s'approcha de lui. Il comprenait toute la situation de Luther. Il savait que si son regard n'était fixé sur le Seigneur qui est la délivrance de son peuple, il devait succomber. « Mon cher frère, lui dit-il avec gravité, rappelez-vous constamment que vous avez commencé ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi Dieu entourait son humble serviteur de consolation et d'encouragement. » Luther, en arrivant chez le cardinal, y trouva un nouvel adversaire. C'était le prieur des Dominicains d'Augsbourg qui était assis à côté de son chef. Luther, conformément à la résolution qu'il avait prise, avait écrit sa réponse. Les salutations d'usage étant terminées, il lut d'une voix forte la déclaration suivante. « Je déclare que j'honore la Sainte Église romaine et que je continuerai à l'honorer. J'ai cherché la vérité dans des disputes publiques et tout ce que j'ai dit, je le regarde encore à cette heure comme juste, véritable et chrétien. Cependant, je suis un homme et je peux me tromper. Je suis donc disposé à me laisser instruire et corriger dans les choses où je puis avoir erré. » Je me déclare prêt à répondre de bouche ou par écrit à toutes les objections et à tous les reproches que peut me faire le Seigneur légat. Je me déclare prêt à soumettre mes thèses aux quatre universités de Bâle, de Fribourg-en-Brisgau, de Louvain et de Paris et à rétracter ce qu'elles y trouveront d'erroné. En un mot, je suis prêt à tout ce qu'on peut exiger d'un chrétien. Mais je proteste solennellement contre la marche qu'on a voulu imprimer à cette affaire et contre la prétention étrange de me contraindre à me rétracter sans m'avoir réfuté. Sans doute rien n'était plus équitable que ces propositions de Luther, et elles devaient mettre très fort dans l'embarras un juge auquel avait été prescrit à l'avance le jugement qu'il devait rendre. Le légat, qui ne s'était pas attendu à cette protestation, chercha à cacher son trouble en affectant de rire de la chose et en revêtant tous les dehors de la douceur. « Cette protestation, dit-il à Luther en souriant, n'est point nécessaire. Je ne veux pas disputer avec toi, ni en public ni en particulier, mais je me propose d'arranger l'affaire avec bonté, comme un père. » Toute la politique du cardinal consistait à mettre de côté les formes sévères de la justice, qui protègent ceux qui sont poursuivis, et à ne traiter la chose que comme une affaire d'administration entre un supérieur et son inférieur. Voie commode, en ce qu'elle ouvre à l'arbitraire le champ le plus vaste. Continuant de l'air le plus affectueux, « Mon cher ami, dit de Viaux, abandonne, je te prie, un dessein inutile. Rentre plutôt en toi-même, reconnais la vérité, et je suis prêt à te réconcilier avec l'Église et le souverain évêque. Rétracte, mon ami, rétracte, telle est la volonté du pape. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, peu importe, il te serait difficile de regimber contre l'aiguillon. » Luther, qui se voyait traité comme s'il était déjà un enfant rebelle et rejeté par l'Église, s'écria « Je ne puis me rétracter, mais je m'offre à répondre, et par écrit. Hier, nous avons assez débattu. » De Viaux fut irrité de cette expression qui lui rappelait qu'il n'avait pas agi avec assez de prudence. Mais il se remit et dit en souriant « Débattu, mon cher fils, je n'ai pas débattu avec toi, je ne veux pas non plus débattre. » Mais je suis prêt pour plaire au sérénissime électeur Frédéric, à t'entendre et à t'exhorter amicalement et paternellement. » Luther ne comprenait plus que le légat fût si fort scandalisé de l'expression qu'il avait employée, car, pensait-il, si je n'avais pas voulu parler avec politesse, j'aurais dû dire non débattre, mais disputer et quereller, car c'est vraiment ce que nous avons fait hier. Cependant, de Viaux, qui sentait qu'en présence des témoins respectables qui assistaient à la conférence, il fallait au moins paraître chercher à convaincre Luther, en revint aux deux propositions qu'il lui avait signalées comme des erreurs fondamentales, bien résolu à laisser le réformateur prendre la parole le moins possible. Fort de sa volubilité italienne, il l'accable d'objections auxquelles il n'attend pas la réponse. Tantôt il plaisante, tantôt il gronde, il déclame avec une chaleur passionnée, il mêle les choses les plus bizarres, il cite saint Thomas et Aristote, il crie et s'emporte contre tous ceux qui pensent autrement que lui, il apostrophe Luther. Celui-ci veut plus de 10 fois prendre la parole, mais le légat l'interrompt aussitôt et l'accable de menaces. Rétractation, rétractation, voilà tout ce qu'il demande de lui, il tonne, il règne, il veut seul parler. Staupitz prend sur lui d'arrêter le légat. « Veuillez permettre, lui dit-il, que le docteur Martin ait le temps de vous répondre. » Mais le légat recommence ses discours, il cite les extravagantes et les opinions de saint Thomas, il a pris son parti de pérorer pendant toute l'entrevue. S'il ne peut convaincre, et s'il n'ose frapper, il prétend du moins étourdir. Luther et Staupitz virent clairement qu'il fallait renoncer à l'espérance non seulement d'éclairer de Viaux par une discussion, mais encore de faire une profession de foi utile. Luther en revint donc à la requête qu'il avait faite au commencement de la séance et que le cardinal avait alors éludée. Puisqu'il ne lui était pas permis de parler, il demandait qu'il lui fût au moins permis d'écrire et de remettre sa réponse écrite au légat. Staupitz l'appuya. Plusieurs autres assistants joignirent leurs instances aux siennes et cajetant, malgré toute sa répugnance pour ce qui est écrit, car il se souvenait que les écrits restent, et consentit enfin. On se sépara. L'espérance qu'on avait eue de terminer l'affaire dans cet entretien était ajournée. Il fallait attendre ce qui résulterait de la conférence suivante. La permission que le général des Dominicains avait donnée à Luther de prendre du temps pour répondre, et pour répondre par écrit, sur les deux accusations clairement articulées qu'il lui avait faites touchant les indulgences et la foi, n'était rien de plus que ce que la justice exigeait, et pourtant nous devons en savoir gré à De Viaux comme d'une marque de modération et d'impartialité. Luther sortit de chez le cardinal joyeux de ce que sa demande lui était accordée. En allant chez Cajetan et en revenant, il était l'objet de l'attention publique. Tous les hommes éclairés s'intéressaient de son affaire comme s'ils avaient dû être jugés eux-mêmes. On sentait que c'était la cause de l'évangile, de la justice et de la liberté qui se plaidait alors à Augsbourg. Le bas peuple seul tenait pour Cajetan, et il en donna sans doute quelques marques significatives au réformateur, car celui-ci s'en aperçut. Il était toujours plus évident que le légat ne voulait entendre de Luther que ces paroles « Je rétracte », et Luther était résolu à ne pas les prononcer. Quelle sera l'issue d'une lutte si inégale? Comment imaginer que toute la puissance de Rome, aux prises avec un seul homme, ne parviendra pas à l'écraser ? Luther voit ces choses. Il sent le poids de cette main terrible sous laquelle il est venu se placer. Il perd l'espérance de retourner jamais à Wittenberg, de revoir son cher Philippe, de se retrouver au milieu de cette jeunesse généreuse dans les cœurs de laquelle il aimait tant à répandre les semences de la vie. Il voit l'excommunication suspendue sur sa tête et il ne doute nullement qu'elle ne vienne bientôt le frapper. Ses prévisions affligent son âme, mais elles ne l'abattent point. Sa confiance en Dieu n'en est pas ébranlée. Dieu peut briser l'instrument qu'il lui a plu d'employer jusqu'à cette heure, mais il maintiendra la vérité. Quoi qu'il arrive, Luther doit la défendre jusqu'à la fin. Il se met donc à préparer la protestation qu'il veut présenter au légat. Il paraît qu'il y consacra une partie de la journée du 13.